la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. J'attends, j'attends, oui, cher Guillaume Apollinaire, j'attends que les feuilles tombent et les cèpes poussent. J'attends aussi cette rentrée littéraire avec impatience, le 897e livre d'Amélie Nothomb. Christine Angot qui nous parle d'inceste, mais dans un nouveau livre, La petite musique mélancolique de Philippe Digeant, le 10e roman de Sorge Chalandon. J'attends, oui, j'attends cette rentrée littéraire qui arrive en août, mais que je ne décide de découvrir qu'en automne. Car oui, cette émission n'est pas une émission normative, calibrée sur les sorties des éditeurs. Elle ne répond à aucune maison d'édition, mais simplement au talon de chineuse de Claire, de l'excellente médiathèque départementale de Lozère, qui, pour vous, cher lecteur et chère lectrice, va non pas vous emmener à la découverte des auteurs que j'ai cités précédemment, mais en Irlande, vous expérimentez la magie de la cuisine persane, les effluves ensorcelant de la cardamome, des amandes grillées, du miel chaud, dans la tiédeur des bars de Brazzaville au Congo, refuge idéal pour boire, discuter d'amour et de livres et pour oublier un quotidien gouverné par l'absurde, dans l'humidité d'un cargo de marchandises qui traverse l'Atlantique, vous transportez dans le corps d'un bonobo, évoquer le jazz dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ou quitter sa patrie et partir en exil en Uruguay. Bonjour Claire.
Bonjour Ludo, bravo, quelle intro.
Ah, merci et merci pour cette nouvelle belle sélection pour une rentrée littéraire que vous n'entendrez que dans un livre sur le zinc et de livres d'ailleurs que l'on a aimé ou pas car on est aussi critique dans cette émission. Bonjour Marlène.
Bonjour à tous.
Au top, la médiathèque départementale de Lozère.
Oh merci, c'est gentil. De rien. C'est pareil pour 48FR.
Oh merci, c'est gentil. Oh, on est heureux aujourd'hui, c'est bien, il fait beau. Oh, allez, on parle en médiathèque. Pauline, notre enseignante documentaliste, est là. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Et notre amoureuse des livres, Valérie. Salut Valérie.
Salut Ludo.
Allez, on va commencer cette émission à partir en exil qui va nous emmener visiter bien des contrées. Atterrissons tout d'abord en Amérique du Sud, en Uruguay, pour le projet fou de Santiago Dami Gorena avec ce livre « Le premier exil ». Alors projet fou, car depuis plus de 20 ans, Dami Gorena construit patiemment un grand texte autobiographique dont chaque livre compose un chapitre. Donc vous m'avez suivi. Dans ce nouvel opus, il se souvient de son enfance quand à 6 ans, il quitte avec ses parents son Argentine natale pour l'Uruguay. Avant l'exil définitif en France, qui sera un autre livre, parce que là, c'est le premier exil.
Oui, c'est ça. Merci, Ludo.
De rien.
Je pense qu'on va à peu près en rester là. Non. Alors, je ne vais pas m'étaler énormément sur ce livre. J'ai eu beaucoup de mal à y rentrer. Pourtant, j'adore la littérature d'Amérique latine, d'habitude. Mais là, non, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ce document. Tu l'as dit... Exil, en fait, il ponctue son livre de petits poèmes ou de petites citations de temps en temps. Ce qui est intéressant. Hein. Donc, il parle de l'errance, des souvenirs, de la mémoire, de la transmission. Parce que ça commence par le deuil, en fait. Du coup, il assiste au rituel pour l'enterrement de son grand-père. Voilà, donc ça commence comme ça. Et après, il commence à parler de l'exil, de ce qui se rappelle un tout petit peu de sa première maison en Argentine. Et puis après, des rues, des odeurs, etc. de l'Uruguay. Mais en fait, les pages, parce que j'en ai lu à peu près trois quarts, c'est surtout en fait la vision de l'auteur sur l'écriture, le silence, comment il en est arrivé à écrire. Et à cause de son exil, voilà, il revient sur comment j'écris, à quoi ça me fait penser, etc., etc. Bon, j'ai eu vraiment du mal à rentrer là-dedans, du coup.
C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette biographie. Je me suis dit, bon, on va sortir le mot. Hein. Est-ce que c'est pas un peu trop de la masturbation intellectuelle?
Voilà, c'est bon. C'est autobiographique peut-être. On s'attend plus du coup à à avoir la vision de quand il était petit, de ce qui se passe autour, et revenir un peu sur le contexte politique aussi peut-être, etc. Puis au final, c'est pas forcément ce qu'on ressent, c'est vraiment son rapport à l'écriture. Non, moi, ça m'a, enfin voilà, je suis pas super emballée, j'ai, ben, vous voyez bien, de toute façon, j'ai du mal à en parler parce que forcément, voilà, c'est pas, alors, voilà, on est sur 328 pages. Alors, si chaque livre de son, enfin, chaque chapitre de sa vie fait 300 pages, et si c'est autant poussif que ça, enfin, moi, je lirai pas les autres.
Ça va être compliqué. Voilà. Et en plus, c'est étonnant parce que c'est donc un scénariste, un réalisateur, scénariste, producteur, écrivain argentin qui vit en France. J'imagine que ce nom vous dit rien. Pourtant, il a écrit des scénarios de films extrêmement connus qu'on a tous vus et qui sont parfois très drôles. Et ça vous dit rien, Valérie, ce nom, en tant que scénariste ?
Redonne le nom.
Santiago Amigorena.
Rien du tout.
Mais souvent, les scénaristes, on ne les connaît pas. On voit les films à travers leurs réalisateurs. Il a notamment écrit Le Péril Jeune.
Ah oui.
De Clapiche.
Ouais. C'est vrai que c'est super drôle, Le Péril Jeune.
Ben oui, c'est drôle.
Mais oui.
Ben dessus, quand même, ouais, Valérie. Ouais. Non, mais de toute façon... Non.
J'ai pas d'humour.
T'as pas d'humour.
J'ai pas d'humour.
Voilà, parce qu'il a connu Clapiche, entre autres, lors de ses études à Paris. Ouais. Donc, si vous voulez, vous avez du temps, vous avez lu tout Proust, vous savez plus quoi faire. Il y a déjà 6 livres qui sont sortis.
Peut-être que ça peut parler à ceux qui l'ont vécu aussi, ou qui ont vécu de l'exil, ou qui voilà, qui sont proches de l'Uruguay, de l'Argentine. Enfin voilà, peut-être un peu plus. Mais j'ai pas accroché, et je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que je suis pas rentrée dedans.
D'accord, voilà. Mais ça arrive, hein.
Ça arrive.
C'est des livres aussi, mais c'est pas pour autant que les gens ne vont pas l'aimer non plus. Peut-être qu'il y a des gens, en t'entendant, vont se dire, ah, celui-là, je vais l'aimer.
Ouais. Juste pour être dans le contre-pied de Marlène, ils vont dire, je vais le lire.
Ouais. Mais oui, tant mieux.
Mais peut-être.
Et il y a certaines critiques qui sont bonnes quand on va regarder un petit peu sur le net, donc on se dit, il y en a bien qui ont dû l'aimer.
Déjà, il y a un éditeur qui l'a publié. Donc, ouais.
Natacha, j'ai entendu la chronique. Je pense qu'il y a un livre pour nous.
Pourquoi Natacha ?
Toute une biographie.
C'est
non,
Clémentine.
Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, merci. Bon, c'est édité chez qui ?
Paul. P.O.L.
Chez Paul.
Chez Paul.
Chez Paul, tu peux avoir des baguettes et des livres. Tu veux pas lire un extrait ? Non,
pas. Oh, pas du mauvais. Pas du mauvais.
Non, mais ça peut être très bien écrit.
Non, c'est pas mauvais. C'est Marlène n'a pas aimé.
Voilà.
C'est ça. C'est pas parce que.
En fait, on va commencer par tous les livres qu'on n'a pas aimés. Et après,
j'enchaîne,
on va.
Du coup.
Arrête, Claire, je pensais pas à toi.
Il y a 400 ouvrages à la rentrée littéraire et vous arrivez à tomber que sur des.
Non, j'en ai un bon là.
Ah.
Non, on en a des excellents aussi.
Bon, on va faire ça au début là. C'est un petit peu des souvenirs d'enfance quand même. Alors, j'écris en silence tandis que les mots attendent la pluie et danse. Donc ça, c'est les petits chapitres qui ponctuent sur son écriture et la façon dont il s'y est intéressé. Au troisième étage de notre somptueuse demeure familiale, il n'y avait qu'une minuscule pièce, ou plutôt qu'une minuscule antichambre, ouverte d'un côté sur l'escalier et de l'autre sur la terrasse. Sur la terrasse, où nous n'allions guère, pourquoi serions-nous allés souvent sur cet espace extérieur de l'intérieur de la maison, alors que la rue nous appartenait, alors que toutes les rues du quartier étaient notre terrain de jeu? Il y avait un grand foyer destiné à l'asado. Cette cérémonie rituelle, cet holocauste qui consiste en Argentine, comme en Uruguay, pour on ne sait quel dieu, à faire brûler des bêtes bien grasses, mais qui devait surtout servir à sacrifier quelques dizaines de livres lorsque, 4 ans après notre arrivée, la simple possession d'un ouvrage du Che, de Mao, de Lénine ou de Marx devint pour le pouvoir une raison d'emprisonnement, voire de torture.
Merci Marlène. Donc on rappelle un Santiago Amigorena pour ce livre, Le Premier Exil, chez Paul. Oui. Allez, on poursuit pour ce second livre. Quelques critiques que j'ai trouvées par-ci, par-là. On va essayer de voir si une d'entre vous reconnaît ce livre. Alors, le style joue sur deux registres sémantiques, l'abstraction et la sensation, les articulant avec une poésie époustouflante. Le récit marche sur un fil entre réalisme et fantastique. Il retombera ultimement sur ses pieds avec une grande élégance. Chapeau l'artiste. Autre critique, c'est organique, poétique, liquide et magnifique. Le texte invite parfois au vertige, frôle régulièrement l'étrange et convoque doucement la folie. Une expérience abyssale au goût de sel. Une langue si sensible et si belle qu'elle vous happe, qu'elle vous transporte, vous ensorcelle. Autre critique, il y a les livres bien sûr, et puis il y a ceux que tu attends patiemment depuis toujours sans les connaître encore. Et celui-ci rejoint ta bibliothèque quelque part entre Coleridge et Pesson, contre le papier cristal des gagnants de Cortazar ou contre celui de Typhon de Conrad. Peu importe, tu sais déjà que tu le reprendras parfois pour relire quelques pages, quelques lignes, simplement pour retrouver cette émotion intacte. Qui a lu ce livre au goût de sel, mention spéciale du prix Marine Bravo Zulu 2021, sélection 2021, prix Welper, prix Roman Fnac, prix Brassens, shortlist, prix Les Incorruptibles.
C'est Polly.
C'est ça, bravo, on va parler d'Ultramarin de Marinette Navarro.
Alors je suis étonnée, t'as dit prix Les Incorruptibles.
Non, prix shortlist, prix Les Incorruptibles.
Ah, Les Incorruptibles, parce que j'allais dire, c'est les Incos, c'est plutôt jeunesse, là c'est, je suis étonnée.
C'est ma faute, pardon.
Non, c'est moi. Et donc je dois vraiment faire ma chronique après tout ça là.
Oui, mais lui c'est un copier-coller d'Internet donc.
Oui, alors moi ça va pas être pareil, alors... Je partage le sentiment qui est partagé dans beaucoup de tes critiques. Après, il y a deux aspects dans ma critique qui semblent complètement opposés, mais finalement, bon, bref, vous allez voir.
Dis-nous tout.
Voilà, je vous dis tout. Alors, mon livre, c'est l'histoire d'un cargo. On est sur un cargo, la commandante prend sa nouvelle équipe, part pour transporter ses marchandises. Et un soir, pendant le repas, il lui prend un moment où elle devient presque amie avec son équipage, ce qu'elle ne fait jamais puisqu'elle veut rester la commandante. Les choses s'emballent un peu et elle accepte finalement d'arrêter le cargo en pleine mer et de les laisser se baigner. Et alors là, il y a cette scène absolument hallucinante de baignade. Je pense que dans beaucoup de tes critiques, je l'ai vue transparaître et franchement, moi aussi, elle m'a marquée. Ils descendent tous à la mer, elle les regarde d'en haut, et il y a ce moment de liberté, et puis ce moment de vertige, ce moment de peur, ce moment... Bref, j'ai préparé un passage à vous lire, parce que c'est assez incroyable, cette scène. Donc là, ils sont en mer depuis... Enfin, ils se baignent depuis quelques temps, et là, ils commencent à ressentir le vertige des profondeurs. Mais pour d'aucuns, c'est trop tard. Ils ont eu la pensée nette des kilomètres sous leurs pieds, ce qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer ici. Le vertige est arrivé. Plus de différence entre les corps suspendus au-dessus des ponts et de tous les parapets. Les corps en montagne qui escaladent cherchant le vide et leur corps à eux, ici et maintenant, leur corps d'innocente baignade. Plus de différence entre les étages angoissants du suicide et la nage prudente autour du canot. L'idée s'est ouverte sous leurs pieds et dans leur ventre, un déchirement. Je vous assure que cette scène, elle arrive au tout début du roman et elle est hallucinante. Vraiment, ça dure un moment à cette scène de baignade. Il s'y passe pratiquement rien, c'est juste une baignade. Mais elle nous décrit les sentiments des marins comme si elle l'avait vécu. Vraiment, Et donc voilà, moi je suis rentrée dans ce bouquin avec cette scène. Et du coup, j'ai accroché tout de suite. Vraiment, j'ai accroché. Et donc, nos marins vont remonter. Et se recompte, avant de remonter dans le bateau, compte 21 personnes, alors qu'il leur semblait être 20 à la descente.
Ah.
C'est très étonnant, mais c'est une nouvelle équipe, personne, voilà, ils se disent, on s'est mal compté, bref, c'est bizarre. Donc quelque chose s'est passé pendant cette baignade. Et là, le bateau lui-même va commencer à... Ils l'ont arrêté complètement, on imagine un cargo qu'on stoppe complètement.
Pour
en pleine mer, le bruit s'arrête, le mouvement s'arrête, tout s'arrête. Il y a cette baignade, il redémarre le bateau. Et là, il y a des choses étonnantes qui se passent. Le bateau qui a l'air de faire son chemin tout seul, de décider de ne plus faire ce qu'on lui demande. Et cette commandante qui se questionne sur ce qu'elle a fait. Pourquoi ? Qui est ce jeune marin qu'elle n'avait pas vraiment remarqué, qu'elle n'est pas très sûre d'avoir embauché ? Et c'est un livre avec beaucoup, et je dis scène parce que je ne veux pas dire passage, parce que vraiment c'est des scènes qu'on voit en image dans notre tête. Une scène par exemple où elle descend dans la salle des machines pour essayer de comprendre son bateau, elle s'allonge et elle nous parle des bruits, elle nous parle des vibrations, elle nous parle... C'est très très étonnant. Il y a vraiment un côté... C'est presque cinématographique, on entend presque le son, on ressent des choses, c'est très étonnant. Donc vraiment, j'ai adoré ce côté, le huis clos. Déjà, ça a un effet, le côté marin, qui est un univers que personne ne connaît, à part les marins. Et c'est très étonnant. Enfin, moi, ça éveille beaucoup ma curiosité. Après, le mauvais côté de ce livre, pour moi, c'est l'histoire de fond, qui est là un petit peu en fond tout le long du livre et qui, à la fin, se débloque d'un coup. Pop, bloup, bloup, on a plein d'infos qui viennent régler l'intrigue, mais qu'on n'a pas vraiment ressenti, en fait. Finalement, il n'y avait peut-être pas besoin de cette intrigue qui se débloque à la fin en deux temps, trois mouvements. Et puis bon, ça n'éveille pas de sentiments en nous. Ça n'ajoute rien à l'histoire. Donc voilà, le mauvais côté pour moi de ce roman, c'est cette intrigue qui est peut-être un peu inutile. Finalement, elle aurait pu se contenter de cette histoire de bateau qui prend un peu son indépendance, voilà. Et ne pas chercher à régler une histoire, quelle qu'elle soit, parce que ça n'a rien apporté. Donc, je vous conseille quand même fortement de lire ce livre pour ressentir ce que j'ai ressenti, parce que vraiment, j'étais dans le bateau, j'étais dans ce bruit, je tanguais, enfin, c'était incroyable. Elle a un talent pour la description et pour nous faire ressentir les choses, Mariette Navarro, qui est assez incroyable. Donc, malgré ce mauvais côté de l'histoire, mais voilà, ça, on peut faire abstraction. Moi, ça m'a pas touchée, peut-être que ça touchera d'autres gens, mais j'en parle pas du tout parce que vraiment, ça arrive tout à la fin du roman.
Ça donne quand même envie de le lire.
Oui, tout à fait. C'est assez incroyable comme expérience.
Ludo va nous dire si c'est un premier roman.
Elle est dramaturge pour différents théâtres et compagnies. C'est pour ça qu'elle doit avoir ce goût de la mise en scène.
Ça colle très bien, ouais.
Voilà, pour ne pas répondre à ta question.
Tu n'as pas envie ou c'est que tu n'avais pas fait la
recherche. Parce que moi, je n'ai rien préparé sur la bio. Hein.
Dis-toi que j'étais en train de travailler ce matin. Quand à 10h, j'ai deux personnes qui ont débarqué. Salut, on vient pour l'émission, une heure avant. Et j'ai voilà. Non, mais ne t'inquiète pas, j'ai travaillé sur toutes les biographies, mais là je ne sais pas.
Après c'est pas grave, l'important c'est de le lire. Hein. C'est
oui,
pas,
franchement,
que ce soit un premier roman ou pas.
Oui, c'est ça.
Non, c'est très étonnant. Hyper intéressant. Oui. Ça a un petit côté angoissant quand même.
Oui, il y a un petit côté oppressant et angoissant. Bref, c'est très très étonnant comme expérience. C'est vraiment une expérience.
Mais cette
idée, la couverture, elle est fabuleuse.
Oui, ça hypnotise.
Oui, bah voilà, la couverture transcrit très bien ce qu'on va ressentir dans le livre.
C'est une espèce de je sais pas comment on dit, spirale, c'est un serpentin spirale là, et du coup avec un bout du cargo, c'est joli.
Mais cette idée d'arrêter un cargo en plein milieu de l'océan pour les
sébéliers, ça paraît incroyable.
C'est peut-être le cargo qui a suggéré l'idée de s'arrêter.
Pourquoi pas ? Mais oui.
Merci Pauline. C'est quelle maison d'édition ?
C'est Ultramarin de Mariette Navarro chez Kidam ou Quidam.
Kidam.
Super. Allez Valérie, pour te prouver que j'ai bossé les biographies quand même des livres que vous allez présenter. On va partir maintenant de Sochaux à Auxerre puis au Paris Saint-Germain avec Gardien de ma vie de Joël Batz.
Sérieusement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Édition illustrée de 1984.
Absolument.
Encore.
Tu vois que j'ai travaillé quand même les biographies. Mais alors, je sais pas, je vous ai demandé les livres, tu m'as dit que tu présentais ce livre.
Oui, mais je peux pas le présenter une fois par trimestre. Les auditeurs en ont marre.
Je me suis fait avoir.
Tout le monde connaît Joël Batz.
C'était une blague alors.
C'était pas une blague, mais c'est faut un peu de respect. Là, on est sur la rentrée littéraire. Tout le monde sait que c'est le meilleur livre au monde. Mais il y a plus de 400 ouvrages qui sont sortis pendant la rentrée littéraire. Voilà. On peut bien... Donc, au hasard, je vais parler...
Chers auditeurs, vous m'excuserez de ne pas avoir fait les biographies de Valérie, qui m'a dit qu'elle avait lu que Joël Batz.
Gardien de ma vie.
C'est ça.
Édition illustrée 1984. Mmh. C'était vrai. Ouais. Mais j'ai lu d'autres choses.
Et quoi,
alors,
quoi
je,
donc
je dirais pas que c'était mieux. Mais je dirais
que rien n'est mieux
différent.
Que Joël Batz.
Mais rien n'est mieux, mais c'était différent. Oui. Alors, si on ne m'avait pas laissé le choix des livres, j'aurais pu me poser la question de pourquoi est-ce que Claire et mince, ça va
pas merde. Ah oui, tu cherches mon prénom.
Non, parce que c'est Claire qui m'avait donné le livre, je suis désolée.
Oui, nous ne nous aimons pas dans cette émission.
C'est ça, parce que je cherche la transition, comment passer de Joël Batz à Katharina Volkmer et Joe Hitchcock. Si tu veux, ça va loin. Quoi. Non, j'aurais pu me poser des questions si c'est Claire qui m'avait laissé les livres, c'est pour ça. Si vous m'aviez imposé ces livres-là, que je vais présenter, je me serais posé des questions sur quelle image avez-vous de moi. Mais j'ai choisi par moi-même, par hasard. Ce livre-là est un ovni. Je le tiens dans mes mains. J'ai enlevé la couverture. Il y avait un emballage rose vif que j'ai enlevé pour le lire, pour être moins vue dans la rue avec mon livre à la main. Donc le titre, c'est « Jewish Cock ». Jewish comme juif et cock comme l'organe masculin Voilà, reproductif. Et donc, ce livre est un ovni, mais complètement ovni. En fait, c'est un monologue. Un monologue, donc, de 200 pages. Et c'est une jeune fille qui est allongée chez son gynécologue, donc le docteur Seligman. Elle est là, les jambes écartées, et elle se lance sur un monologue où elle raconte tout.
Elle n'est pas partie de la présélection.
et je vais me mettre à lire Amélie Nothomb, là, hein, dans cette édition, c'est pas possible. Hein.
Non, mais c'est... En fait, et alors bon, j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se lever, on va la suivre dans... Non, tout le livre hein, se passe sur ce fichu fauteuil. Alors je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant à le mettre en scène au théâtre.
Ah oui.
Ah bah oui. Ah, oui. Je me suis dit, bon, on verra pas la tête du gynéco pendant tout le temps, parce que... En fait, elle s'adresse à lui, et elle se met à lui raconter sa vie. Et vous imaginez que sa vie n'était peut-être pas des plus anodines, puisque déjà, elle a un fantasme dans la vie qui est le pyjama d'Hitler, et elle rêve qu'elle a des relations sexuelles avec Hitler.
C'est chez un psy qu'il fallait
que c'est ça. Alors justement, Marlène, tu as raison. Et comme, en fait, un jour, elle avait menacé d'agrafer les oreilles d'un de ses collègues de boulot à son bureau... Elle a eu droit à des séances de psy. Et quand elle a été voir le psy, elle s'est dit, tiens, et si j'y racontais n'importe quoi à Jason, le psychologue? Et donc, elle raconte à son gynéco tout ce qu'elle raconte au psy. Mais elle lui raconte des choses qui ne sont pas vraies pour voir jusqu'à sa capacité d'encaissement, en fait, des choses horribles et dégueulasses qu'elle lui raconte. En fait, elle invente encore des histoires à son psy. Après, elle revient, elle raconte sa passion pour Monsieur Shimada, qui est un grand créateur de sextoys japonais, et comment elle idolâtre cette personne. Et pendant ce temps-là, le gynécologue, en fait, est là, affairé entre ses jambes, et elle raconte ça, elle raconte comment elle n'est pas à l'aise avec son corps de femme, comment elle aimerait faire une transition vers un autre corps.
Il ne parle pas, le gynécologue, on n'entend jamais.
Jamais. Elle raconte aussi son amant. Alors, elle avance tout doucement, elle commence à nous dire qu'elle a un amant, et on s'imagine une histoire à peu près normale. Et en fait, non. C'est Monsieur K qu'elle a rencontré dans les toilettes d'un bar, avec qui elle a eu une aventure, oui, mais c'est sordide. Mais en même temps, il y a un côté, alors je ne sais pas si c'est de la curiosité ou quoi que ce soit, qui donne envie d'aller plus loin dans le livre. Et c'est drôlement bien écrit. Et les mots choisis, la façon dont ça a été écrit, et c'est hyper plaisant. Et moi, j'ai passé tout le livre à m'imaginer une pièce de théâtre sur ça, mais en même temps, en termes de mise en scène, c'est assez sommaire. Hein. Un fauteuil de gynéco et quelqu'un qui raconte ça, mais c'est...
Il faut appeler notre amie Mariette Navarro pour le mettre en scène.
Peut-être qu'à L2, elles auraient réussi à faire quelque chose d'assez fou. Voilà, donc, et son fil rouge donc à cette femme dont on ne connaît pas le nom, c'est d'obtenir un pénis circoncis, donc le fameux Jewish cock. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir parler de tout ça à 11h du matin sur une radio.
Oui, mais ça passe à 19h et midi et demi, on est en différé.
Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas.
Midi et demi, peut-être pas.
Midi et demi, c'est bon appétit d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent. Voilà.
Le livre le plus explosif de l'année, hein, d'après le magazine Rolling Stone.
Oui, mais c'est Barjo, c'est complètement Barjo en fait. C'est cette fascination qu'elle a pour le Führer, puisque c'est.
Il faut dire que l'auteur est né en 1987 aussi. Oui. Tu sais bien que cette année-là. Les gens qui sont en 1987, il y en a qui.
Je pense que c'est vrai.
Il y en a qui peuvent être zinzin.
Non, mais voilà, elle raconte aussi, dans l'autrice donc est née en Allemagne. Là, son personnage est une exilée allemande qui vit à Londres, mais qui a des problèmes de relation avec sa mère. Il y a tout un environnement qui peut amener à cette espèce de grain de folie, mais qui est hyper plaisant à lire, en fait. Ça n'est presque dérangeant, mais c'était plaisant, quoi. C'était un ovni dans un monde de littérature et à pas mettre entre toutes les mains parce que c'est très cru. Hein. Enfin, quand elle parle de l'Holocauste, de la Shoah, du pyjama d'Hitler, du sexe d'Hitler et de tout ce qu'elle peut avoir dans la vie, il y a rien qui est passé à l'écumoire. Hein. Enfin, tout est livré de façon directe et c'est c'est à la fois dérangeant parce qu'on a envie qu'elle sorte de ce fichu cabinet de gynécologue, qu'elle laisse ce docteur Seligman tranquille, parce qu'on l'imagine là pendant... c'est long à lire 200 pages. Mais en même temps, voilà, il y a quelque chose de très plaisant. Ouais. C'est un peu gênant, plaisant et gênant à la fois.
Voilà, mais on est là pour vous faire découvrir des livres qui détonnent. C'est exactement ça que sert cette émission.
Voilà.
Tu as choisi un passage à nous lire
Si tu veux,
bah,
si
c'est
tu
toujours,
veux.
C'est toujours bien, j'aime
oui,
bien.
Oui, oui, alors c'était quoi là? Je me suis permis de faire... Ah oui, c'était peut-être un peu pour montrer le style, parce que quand on voit le titre, quand on lit un petit peu le sujet, on s'imagine qu'on va avoir une littérature très, avec des mots très simples, très... un peu...
cru, quoi.
Voilà. Voilà. Donc là, déclic. Et si, comme la créature de Frankenstein, je finis par essayer à tout craint de phagocyter le bonheur des autres, par me faire chasser à chaque fois comme un pigeon répugnant, le corps flétri et rongé des pieds à la tête par ma propre disgrâce. J'exagère, je sais. Cette famille était tout aussi malheureuse que le monstre et il a eu de la chance de s'enfuir puis de détruire leur vie de loin. K me disait toujours que nous ne possédons pas le pouvoir de nous rendre heureux les uns les autres et que nous ferions mieux d'accepter la solitude en considérant qu'elle est inhérente à la condition humaine. Qu'il n'existe aucun moyen par lequel nous pourrions nous débarrasser de notre peau et nous sommes tous nés avec le cœur brisé. Il pensait que c'était cela qui signifiait le péché originel. Et
Ouais, je ne m'attendais pas à ça.
Ouais, c'est tout le temps, c'est assez recherché comme écriture. Ouais, c'est pas fluide en fait. Ça demande quand même un effort de lecture. Hein. C'est malgré le sujet, voilà. C'est hyper plaisant. Je le conseille.
Merci Valérie, maison d'édition.
Grasset,
chez Grasset.
Voilà.
D'accord, très bien. Allez, avant la pause musicale, je vais vous présenter un livre. Alors, on change du tout au tout.
On a le droit ?
Ouais, on va aller dans la cave 72, qui est un bar à Brazzaville au Congo, dans la tiédeur de la chaleur du Congo, où l'on retrouve trois jeunes, trois amis, Verdas, Ferdinand et Didi, qui s'y retrouvent tous les soirs. Mais quand un complot politique qui implique un ancien ministre, un colonel, plusieurs hommes de main éclatent, eh bien le guide providentiel, qui est le chef du Congo, fait d'eux des coupables et de la cave 72 un repère d'opposants. Ils deviennent du coup des héros malgré eux face à l'injustice de leurs arrestations. Le peuple se soulève, brave l'armée, se met donc à espérer. Mais jusqu'où l'espoir va pouvoir-t-il aller au Congo, à Brazzaville? On va le voir. Donc c'est l'histoire de ces jeunes qui ont cassé le stylo, comme on dit au Congo. Si vous savez ce que ça veut dire, casser le stylo au Congo, eh bien, c'est arrêter ses études. L'auteur lui-même a cassé le stylo à 19 ans, interrompant un ennuyeux BTS en électronique et en maintenance informatique. Il est allé travailler dans une pharmacie. Il est licencié au bout de 2 ans. Et donc, il se dit, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire de la poésie et du slam. Et bien lui en a pris, car suite à cela, il écrit un premier roman, Cave 72, ce roman qui est excellent, qui vient de recevoir le prix Voix d'Afrique organisé par RFI sur 350 romans. Donc c'est un roman policier, politique, sarcastique un peu, où se mêle une enquête, une satire, un peu de fable propre à ces pays africains, avec beaucoup d'humour et de poésie. Alors c'est direct, c'est bien écrit, on voit que l'auteur tire ses racines dans la poésie et le slam. Donc c'est de très belles phrases, des phrases extrêmement imagées. Le slam tiré du slam, il y a beaucoup de réparties. Et donc il met en avant aussi, surtout derrière tout ça, l'absurdité politique, où pour garder le pouvoir ou par simple vengeance, les politiques de ces pays sont prêts à tout. Donc du coup, je vais vous lire un extrait, ça sera plus simple. Tu as intérêt à être créatif dans tes prochains rapports, mais y des mots alarmants. Vois-tu, le guide providentiel, oh que son règne dure, sait qu'il n'est nulle part dans le cœur du peuple. Je te parle du vrai peuple, pas de l'incompétent casé à la fonction publique grâce au bras long d'un corrompu qui connaît les rouages du système. L'entourage du guide n'est pas des plus loyaux non plus. Il sait que nous autres, nous lui mangeons dans la main juste parce qu'il y a du riz. Donc avec tout ça, il juge que le pays ne peut être aussi calme. Vois-tu ? Tu es le directeur général de la sécurité territoriale. Tu es chargé, entre autres, de prévenir le guide providentiel des dangers qui le guettent. Donc, s'il n'y a pas de danger, tu n'es pas plus utile que le petit orteil. Tes rapports pourraient mentionner au moins une menace contre son régime, aussi infime et ridicule soit-elle. Ce n'est qu'un simple conseil en tant que grand frère. Par exemple, tu pourrais mentionner la tenue de séminaires clandestins sur la démocratie et la liberté d'expression. Une rencontre secrète de l'opposition, une marche pacifique pour l'alternance, une manifestation des retraités devant la Caisse nationale de sécurité sociale. Hein ? Il y a aussi les insultes contre le guide sur les réseaux sociaux. Que sais-je ? Voilà. Et donc, ça démarre comme ça, ce roman. Et donc, cette personne qui est guide de la directeur général de la sécurité territoriale se dit, bah oui, je sers à rien. On lui a retransmis une clé avec un ancien ministre qui travaillait et des preuves qui ont été inventées pour le faire tomber. Et donc, on lui explique plus loin que ce qui est bien aussi, c'est de taper sur les jeunes. Voilà, la jeunesse qui serait activiste avec les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, il va s'attaquer à ce ministre corrompu par jeu de domino, faire tomber ces trois jeunes qui, en fait, discutent de livres, qui adorent Nietzsche, qui adorent boire, danser, s'amuser. Et indirectement, ça va leur retomber dessus à la fin. Donc c'est très intelligent. Il s'attaque quand même au régime de pays africains. Il prend quand même un peu de risque, même bon, c'est une fiction. Hein. Voilà, il n'a pas pris le sujet le plus simple, mais il a pris le sujet qu'il connaît. Il est très jeune. Hein, je ne sais plus quel âge il a. Il a 29 ans, je crois, cet auteur, pour son premier roman. Voilà, donc c'est vraiment un complot politique qui désigne ces jeunes comme des révolutionnaires qu'il faut jeter en prison. Et donc, il y a beaucoup de personnages qui tombent à cause d'une invention du guide. Et on apprendra à la fin qui est derrière, finalement, vraiment derrière tout ça, le pourquoi, le comment et qu'advient-il de ces jeunes. Voilà, ça se lit très facilement, très vite. Et voilà, c'est un coup de cœur. Et c'est chez Lattès, J.C. Lattès, donc qui organise ce prix avec RFI. Et c'est Fan Atiki pour CAF 72.
Super.
Ouais, bonne envie.
Ouais. Non, vraiment. Et donc, du coup, on va faire une pause musicale que tu as choisie, Claire. Alors, on va pas partir au Congo, on va partir en Côte d'Ivoire.
C'est toi qui l'as choisi.
C'est moi qui l'ai choisi. Voilà, c'est que je voulais que tu dises le nom. C'est Dissan Na Mbera. Et c'est de suite. Hop, c'est parti. C'est parti. Ou pas. Et voilà pour ce morceau, on revient avec Claire, explique-nous ce morceau, il a une histoire particulière.
Eh bien, je crois bien qu'on l'entend dans le film de Aya de Yopongo, qui est donc adapté de la BD. Oui, on l'entend tout le long dans le film.
Voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi aussi, parce que c'était adapté, un film adapté d'une BD.
Oui, tout était prévu, oui.
Voilà, c'est ça, absolument. Ah, tiens, Claire, je vais te laisser la parole, parce que tu vas nous présenter, mais rapidement, une soupe à la grenade de Marsha Meran.
Oui.
C'est un peu d'Iran en Irlande.
Oui, alors... La couverture est très belle. Il y a une devanture de magasin, enfin qu'on suppose être un restaurant, en verre d'eau. Il y a des fleurs, des grenades, des citrons. Voilà, donc couverture très attirante. C'est paru chez Piquier, donc autre gage de qualité. Auteur iranienne qui a une histoire un peu tragique, qui a connu plusieurs exils et puis qui finit par s'installer en Irlande et qu'on a malheureusement retrouvée morte assez jeune dans sa cuisine. Et à ce jour, les circonstances de sa mort, plutôt, ne sont pas élucidées. Donc, c'est vrai que tout ça m'avait attirée. Je me suis dit, tiens, je vais me régaler. Donc, ça fait pas mal de temps que l'œuvre a été traduite à droite à gauche dans le monde. Mais voilà, ça sort chez nous pour la rentrée littéraire en français.
C'est un livre qui a été reconnu aussi, de par la critique.
Tout à fait. Qui a été, je ne sais pas en combien de langues ça a été traduit. 15 langues. 15 langues publiées dans 20 pays. Gros succès. Mais malheureusement, je ne l'ai pas aimé. Voilà.
Ouais. Ça arrive.
Je vous avoue qu'il faut aussi être honnête. Je vais faire une critique sur 50 pages, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Alors, je pensais que justement l'histoire de cette Iranienne qui s'installe après avoir vécu bien des choses dans un petit village en Écosse, je crois que c'est l'Écosse, hein, c'est pas l'Irlande. Ça pouvait être intéressant sur l'acculturation, le choc culturel et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on s'imagine qu'elle a sûrement face à elle, elle doit faire face à du racisme, à quelques problèmes. Bon. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on lit dans les 50 premières pages, c'est cousu de préjugés, de stéréotypes. Donc tous les locaux, ils sont roux, ils sont alcooliques, les femmes ce sont des mégères, qui passent leur vie au carreau pour avoir le premier potin, se dépêcher dans la rue pour le raconter.
Après, on parle de l'Écosse quand même. Hein.
Voilà. Les clientes du salon de coiffure sont forcément toutes des blondes peroxydées. Les jeunes, des feignants qui qui finissent l'école très très tôt. Enfin, franchement, à chaque page, c'est bourré de... de stéréotypes, voilà, et j'étais très très déçue puisque je me suis dit que elle, a priori, le sujet du livre, elle va lutter contre ça, et puis finalement, tous ces personnages, alors certes, on imagine le schéma traditionnel du roman où elle arrive dans un milieu difficile, elle va se battre et puis finalement bien s'intégrer, mais moi vraiment la caricature des personnages. J'ai pas pu aller plus loin, même si j'imagine qu'elle force le trait pour pouvoir mieux l'améliorer à la fin du bouquin. Je peux pas. Franchement, j'ai pas pu le lire. Donc, libre à vous d'essayer, puisque je pense que ça a quand même été bien vendu, donc ça a dû plaire à des gens.
Mais
voilà. Du coup, je me suis dit, bon, mince.
Du coup, tu as relu 40 livres d'un livre. 40 pages d'un livre, pardon.
J'ai lu 40 autres pages d'un livre qui me semble beaucoup plus prometteur. Alors, ça s'appelle « La plus secrète mémoire des hommes ». C'est paru chez Philippe Ray. L'auteur, il s'appelle Mohamed Mbougar Sarr. Et donc, ça commence, c'est l'histoire d'un écrivain, et puis il fait un petit peu le flashback sur sa vie. Donc, il raconte qu'il était écolier au Sénégal, et puis qu'il avait le manuel de la littérature nègre, comme on disait à l'époque. Mmh. Donc, il raconte un peu les auteurs qu'il fréquente. Et puis, parmi ces auteurs, il y a quelqu'un dont on dit que c'est le Rimbaud nègre, et donc, il s'appelle Elie Mann. Et Elie Mann, son œuvre a été détruite, etc. On ne peut plus trouver aucune réédition. Il a cherché chez tous les brocanteurs. Même après, quand il est allé faire ses études à Paris, il a continué d'écumer les bouquinistes, etc. Et il ne trouve pas ce bouquin. Et en fait, cet auteur le poursuit. Parce que c'est un étudiant en lettres. Il fait une thèse sur la littérature africaine. Et puis lui-même, il a des prétentions à l'écriture. Et puis, donc cet auteur le travaille, ça le... c'est dans sa pensée. Et puis, un jour, il décide d'écrire son... Alors, il a déjà écrit quelques livres, qui ont eu un relatif succès. Puis, il décide d'écrire son chef-d'œuvre, son grand roman, voilà. Et puis, bien sûr, il bug sur la première ligne. Alors, il s'énerve dans son petit appartement de Paris. Du coup, il décide de sortir pour prendre un peu l'air. Il marche un peu au hasard, et là, oh magie de la littérature,
il
tombe, alors non pas sur Elie Mann, mais sur une autre grande auteure africaine. Mm-hmm. Alors je sais plus trop son nom, ah si, c'est Sigadé, dans un bar. Alors là, magie,
incroyable.
Hein, super. Il rentre, il s'installe dans le bar, et puis il réfléchit un peu à sa technique d'approche, on va dire, parce que il est quand même un peu intimidé. Hein. Puis en plus, ça n'a pas l'air d'être n'importe qui, Sigadé. C'est un peu, si vous voulez, la... ça y est, forcément, son nom m'échappe. La vie sexuelle de Catherine Anne. Ah. Voilà. Mm-hmm. C'est un peu... Millet. C'est un peu la Catherine Millet de l'Afrique, si vous voulez. Voilà. Donc en plus, voilà. Alors, il réfléchit. Et puis pendant qu'il réfléchit, il se passe cette petite scène... Attendez, je reprends mon... Voilà. Alors, à ce moment précis, Sigadé agita le bras pour relever la manche de son grand bobo. Par le bâillement de la bille, alors, quelques secondes, j'entreaperçus ses seins. Ils se faufilaient comme au bout d'un tunnel ou d'un couloir d'attente, le couloir d'attente du désir. Sigadé avait écrit à leur sujet des paragraphes mémorables, des blasons dignes des plus torrides anthologies de textes érotiques. J'étais donc devant une poitrine passée à la postérité littéraire. De nombreux lecteurs l'avaient vue par l'esprit et, sur ses rondeurs, beaucoup parmi eux avaient érigé de solides fantasmes. Je réactivais les miens, le bras retombant et renvoyant la poitrine à son secret. Voilà, donc je trouvais ça une mise... on est page 28, hein, donc vous voyez, ça démarre fort. Et je vous en parlerai pas davantage. Donc, il se murmure que c'est le futur où on court 2021. Mmh. On verra. Mmh. Mais en tout cas, vraiment, ça donne envie d'aller au-delà de la page 40.
Cette émission est enregistrée. On ressortira la bande quand les concours sortiront, qui dureront. Mmh. La soupe à la grenade reçoit le prix Goncourt, titre posthume. Voilà. Maison d'édition, c'est...
Oui, alors c'est Philippe Ré, La plus secrète mémoire des hommes. Ah oui, puis il y a une très belle phrase aussi. À un moment donné, il dit que la vie, c'est tout le, si vous voulez, l'interstice qu'il y a dans le mot peut-être. C'est ce qui peut être. Ouais, déjà, je crois que c'est la deuxième page. Enfin, il y a plein de petites phrases comme ça. C'est
mieux que ça soit la deuxième et pas la 52e parce qu'on l'aurait pas eu.
Ouais.
Merci Claire. Je suis sympa, mais je vais changer.
La vie n'est rien d'autre que le trait d'union du mot peut-être. Voilà. J'ai beaucoup peur.
C'était vachement plus joli quand tu l'as expliqué que...
Pardon, oui. Oui, j'avais cassé le... Tu m'as dit mieux que lui. Ouais,
Allez, on va rester en Afrique avec un journaliste et documentariste qui a travaillé pendant toute sa vie, 25 ans, Christophe Négon, où il a couvert de nombreux conflits au Rwanda, Tchad, Angola, au Libéria, un grand reporter, et bien qui a été producteur-animateur pour RFI d'ailleurs, qui a réalisé des documentaires pour de nombreuses chaînes, et qui écrit un premier livre, il me semble, c'est le grand roman qu'il voulait écrire, qui s'appelle Mamba
Point
Blues.
Point, c'est mieux de dire.
Point, pardon.
Mamba Point Blues.
Je suis bien français, moi.
Oui. Alors là, pour le coup, mon petit coup de cœur, mais vraiment. Donc, je vous embarque avec lui. Non, pour un premier roman, c'est vraiment... 535 pages que j'ai pas voulu lâcher. Je voulais savoir la fin à tout prix. C'est écrit, mais
c'est fluide. Pourtant, voilà. Alors, je pose le décor. Hein. Donc, on suit Jules, un Français d'Afrique, qui a été enrôlé dans la 369e division noire américaine lors de la Première Guerre mondiale. Donc, on est avec lui dans les tranchées, sachant que il faut remettre un petit peu dans le contexte. Donc, il faisait partie de la division qui s'appelait donc les Hellfighters. Et en fait, ils étaient les premiers. C'était la première unité de combattants noirs sous uniforme français, puisque les Américains ont réfuté, ne voulaient pas mélanger les blancs et les noirs. On est encore, enfin voilà, il y a encore tout le côté ségrégation dans ce livre qui ressort beaucoup. Et donc, ce Jules, en fait, on attaque et on attaque par du rythme. C'est-à-dire qu'il est dans une tranchée, il est enseveli, on ne sait pas si son corps est encore en entier ou pas. Et lui, il regarde autour de lui et c'est vraiment le badaboum, badaboum, badaboum que fait mon cœur. Et puis le poum, 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 poum. Enfin voilà, c'est vraiment, on part comme ça sur du rythme. Et en fait, tout le livre est rythmé par le rythme. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique et qui va du coup intégrer un band blues jazz d'anciens combattants, en fait. Il se retrouve avec certains de ses compagnons de la division qui sont survivants, parce que je ne sais plus, sur 4000, il en ressort que 160, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, il va partir les rejoindre en Amérique après. Il va avoir tout un passage où, du coup, il joue, il invente une autre façon de faire le jazz, enfin, voilà, avec ses racines africaines. Voilà. Donc, c'est un livre qui est ponctué comme ça de musique et de sa vie. Et puis ce Jules, il va arriver à retourner à ses racines au Libéria, donc pour lui le pays de la liberté, où il va retrouver ses racines familiales, parce qu'il y a aussi tout un parcours dans le livre où du coup, de coïncidence en coïncidence, et bien, en fait, deux personnages vont se rapprocher, ils vont se rendre compte qu'ils sont de la même famille et ils vont se retrouver aussi sur leurs ancêtres au Libéria qui étaient du coup des esclaves qui ont été amenés bien entendu en Amérique. Et puis après on voit en fait tout le côté de la création du Libéria avec tout un passage historique où c'est très compliqué la création du Libéria parce que du coup l'Amérique veut garder... veut avoir une emprise dessus. Donc, renvoie des anciens esclaves affranchis, tout juste affranchis, là-bas. Et en fait, on se rend compte qu'au début de l'histoire du Libéria, ces anciens esclaves font la même chose avec les autochtones et rejouent la même chose. Donc, en fait, c'est un livre qui suit sur la musique, qui est historique, parce que du coup, ce Jules, il va quand même vivre la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça voilà, toute l'histoire de la ségrégation, puisque là, j'ai envie de vous lire ce passage-là, où du coup, c'est la musique qui le sauve d'une situation un petit peu qu'on sent inextricable, parce qu'il est dans le sud, que c'est encore... il y a encore beaucoup de racisme, et que, oui, les Blancs ont bien compris que, du coup, ils ont perdu la guerre et qu'il fallait que les Noirs deviennent libres, mais que, du coup, ils les exploitent d'une autre façon, et bon, ils aiment quand même pas, voilà, on a quand même le 3K qui sévit, un peu rassurés, ils ont fait encore 80 km jusqu'à Gulfport. Là, ça s'est gâté. Arrêt essence, le pompiste rechignait, servait les autres voitures. Pendant qu'il faisait semblant de s'affairer, une dizaine de types sortis d'on ne sait où se sont approchés de la station. On commençait à tourner autour du bus. Un premier coup de pied dans un pneu. Un barbu portant blouson et casquette de cuir des bikers a imité un singe. Rire. Des coups dans la carrosserie, des cris rythmés. Niger monkey, niger monkey, niger monkey, niger monkey. Trois se tenaient devant. Ils tapaient sur la calandre. Impossible de repartir sans en écraser un. Et de plus en plus fort, ils scandaient leur refrain sur le thème du négro macaque. Peur à l'intérieur du bus. Le premier qui descendrait se ferait démolir. Alors Jules s'est souvenu du petit matin glacé en vue de Beach Wheeler, quand il avait commencé à jouer de la batterie sur les tôles du camion et que les gars s'étaient mis à chanter. Il se levait, a pris son petit jumbé dans le filet, est allé à l'avant, a ouvert la portière et, debout sur le marchepied, a repris en leur souriant le rythme et la chanson des assaillants, criant plus fort qu'eux. « Nature Monkey, Nature Monkey !» Il tapait du pied, il faisait le singe en rigolant. « Hooba, hooba !» Sans s'arrêter, il s'est tourné vers Barney. « Monkey Blues !» En quelques secondes, la trompette de Hodge est sortie de son étui, suivie du saxophone de Wilkinson, chacun devant une fenêtre ouverte du bus. Sidération. Quelques rires ont fusé, les coups ont faibli, les assaillants avaient perdu, la main, le lynchage est devenu une jazz session. Certains ont frappé dans leurs mains en chantant leur injure « Fucking nigga !» Sale négro blues. Les gars postés devant la calandre voulaient voir, ils ont rejoint les autres, alors Bruce au volant a pu démarrer.
Donc, c'est troublant comme scène.
Oui,
voilà.
Ça a l'air très violent, troublant.
Ouais. Donc, c'est violent parce qu'on est dans la guerre, etc. Mais voilà.
C'est rythmé.
C'est rythmé. Oui. Et en même temps, il y a aussi, bien entendu, une jolie histoire d'amour. C'est, voilà. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment historique. Et il s'est basé sur des faits historiques, toute la partie de la ségrégation, les guerres. Enfin, voilà. C'est... Mais derrière, il y a une petite histoire d'amour avec, du coup, une Française alsacienne qui du coup accueille ce Jules lors de la Première Guerre mondiale, une fois qu'il a été blessé là, et que du coup il attend de repartir. Mm-hmm. Et bon bref, il tombe amoureux et pendant 20 ans ils sont séparés. Voilà. Et je vous dis pas la fin parce que du coup sinon c'est pas très très drôle.
Et ça termine en 1980.
Voilà. C'est ça.
À Dartmouth aux États-Unis.
C'est ça.
La maison d'édition, Marlène ?
Les Presses de la Cité.
Super, merci beaucoup. Allez, on va accélérer, on va... Mais on a un peu de temps quand même hein, pour présenter Bonobo de Jiang Yujiang.
Oui.
C'est l'histoire de Ginny qui consacre sa vie à l'étude des primates.
Exactement. Alors moi, j'avais lu que ça. Sur la quatrième de couverture, je vois Bonobo. Ginny consacre sa vie à l'étude des primates. Ben voilà, sympa. Allez, je me lance. Pourquoi pas ? J'aime bien les primates.
C'est bien, voilà. Je ne pas beaucoup.
Ouais. 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 Non, ben non, mais j'aime pas trop découvrir avant. Je me dis, allez, je me lance.
Il ne devrait pas y avoir d'holocauste.
Voilà, chez Piquier, tu ne prends pas trop de risques. Tu sais que tu vas taper dans de la qualité. La couverture, une espèce de jungle. Mmh. Donc voilà. Eh ben, j'ai été très très surprise, mais agréablement, très agréablement. J'ai fait une lecture très, ça a été très sympa comme lecture, mais très étonnée à la page 119. Alors donc, effectivement, on rencontre Ginny, qui est soigneuse dans un lieu d'accueil de primates, et c'est un roman à deux voix. Donc Ginny d'un côté et Minju de l'autre, un garçon qui est un peu errant, il s'est fait éjecter de chez ses parents, et puis il est là, il erre près de ce centre de primates, etc. Un soir, il décide de dormir dans la forêt, on ne sait pas trop s'il a envie de dormir, s'il a envie de mourir, s'il a envie d'abandonner, bref, plus trop de goût à la vie. Et leurs destins vont se croiser d'une manière très particulière. En fait, Ginny va aller partir pour un sauvetage d'une jeune bonobo. Mm-hmm. Elle a plutôt l'habitude des chimpanzés habituellement, mais elle a été contactée pour sauver une jeune bonobo. Et sur la route du retour, la personne qui conduit, il va un peu fort, et l'attaque accident. Pendant que Ginny a Jean, le bonobo, dans ses bras, accident de voiture. Notre Minju, qui est en train de dormir dans le parc à côté, va être réveillée, être un peu partagée entre « j'entends ». Je sens que quelqu'un m'appelle à l'aide, je sens qu'il y a besoin de moi, mais en même temps, j'ai pas envie de m'impliquer. Bref, il va décider quand même de s'impliquer, d'aller alerter les secours et de s'enfuir. Il s'enfuit et tombe sur le bonobo, Jean. Et là, il va se passer un truc auquel je m'attendais absolument pas, mais qui finalement ne m'a pas surprise. On va se rendre compte que Ginny, la soigneuse, a vu son esprit se réfugier dans le corps de la jeune bonobo. Mmh. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'à aucun moment on se dit que c'est quelque chose de, que c'est une histoire surnaturelle, que c'est une histoire d'esprit. C'est surtout l'histoire d'une rencontre, celle de Minju et de Ginny, qui vont décider, alors de Minju, qui pourtant avait envie d'abandonner, va se décider quand même à aider Ginny dans la peau de ce bonobo, a essayé de retrouver son corps pour essayer de le réintégrer. Quand je le raconte comme ça, ça paraît un peu farfelu, ça paraît un peu effectivement surnaturel. Mais pas du tout. Ouais. Ce n'est pas du tout un livre fantastique. C'est un livre sur l'amitié, sur les primates, sur la vie, sur la mort, sur le désir de vivre, sur la nature, sur les habitudes des singes.
tout sauf c'est tout sauf quelque chose de surnaturel. C'est une très très belle histoire. L'écriture est agréable. Et, c'est pas le prochain Goncourt. Hein, là, c'est pas lui. Mais par contre, ça se lit très facilement. On est très touché. C'est beau, c'est joli. On a envie de voir leur amitié se faire parce que on ressent une amitié entre un homme et une femme et entre un homme et un singe à la fois. Oui. Et c'est extrêmement touchant, oui. C'est très joli.
Est-ce que c'est une manière déguisée de parler de la relation de l'homme à l'animal?
Oui, je pense en partie. Mmh. Alors, l'auteur, en fait, elle l'explique à la fin. Elle a vu sa mère mourir, et les trois derniers jours avant le décès de sa mère ont été un peu particuliers. Et elle était en train d'écrire complètement autre chose, et donc cet événement, le décès de sa mère, est arrivé, et elle s'est dit, mais ma mère, les trois derniers jours avant son décès, est devenue complètement quelqu'un d'autre. Mmh. Et je me demande, qui on est, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit dans les trois jours où on sait qu'on va peut-être disparaître. Et elle s'est mise, elle a abandonné le roman qu'elle avait en cours, et elle s'est mise à écrire cette histoire. Mais alors, en plus, c'était un roman complètement entamé. C'est assez improbable, le schéma de ça. C'est pas du tout quelqu'un qui est spécialiste des primates. Alors, elle s'est énormément renseignée. Elle a beaucoup voyagé. Elle a été invitée dans des centres, etc. Mais voilà, c'est pas son domaine de prédilection. Et pourtant, on a l'impression, je sais pas, ça se trouve, elle nous raconte n'importe quoi, mais a priori, elle nous apporte beaucoup de connaissances en plus sur le bonobo, qui sont assez étonnantes parce que le bonobo, il partage 98,5% de son ADN avec nous quand même. C'est ahurissant. Non, c'était une belle histoire, très touchante.
Alors, c'est bien que tu nous racontes ça, qu'elle ait changé ce qu'elle était en train d'écrire pour s'intéresser à cet aspect, parce qu'elle est connue comme la reine du crime sud-coréen.
Ah oui.
Elle écrit des thrillers, elle était infirmière, elle rêvait d'écrire, elle a arrêté au bout de 10 ans son métier d'infirmière, elle écrit un premier roman qui a fait scandale en Corée du Sud. Il y avait un prix littéraire coréen extrêmement connu, je ne sais pas lequel. Tous les jurés jeunes ont voté pour elle. Tous les vieux ont voté pour quelqu'un d'autre. Elle n'a pas eu ce prix, mais du coup, elle a explosé aux yeux du monde. Et au moins de la Corée du Sud. Et plusieurs de ses thrillers psychologiques, souvent, étaient adaptés au cinéma. Voilà, elle est connue comme... Et donc là, ça n'a aucun rapport.
Rien à voir.
Donc c'est vraiment cet instant où elle a vu sa mère partir qui l'a fait changer. En plus, son écriture, c'est...
Alors, le côté psychologique est là. Hein. C'est un roman vraiment sur ce qui se passe. On n'a que ce qui se passe dans la tête de chacun. C'est touchant. C'est très joli comme histoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
Eh bien, merci, Pauline. Ça donne aussi envie. Merci, Claire, pour encore un livre qui n'a aucun rapport avec tous les autres. Et on va finir, Valérie, avec toi et un livre de Raphaël Confiant, oui, c'est ça?
C'est ça, parce qu'en fait, je me suis dit, après avoir parlé de Jay Wiscock, il faut que je redore un peu le blason de la littérature. Et j'avais le choix, j'avais Léonore de Recondo, j'ai dit ça va être parfait, il y avait Cécile Coulon, on la présente plus, ça va être super parfait, mais trop moderne, trop jeune, alors je me suis dit tiens, Charles Baudelaire, bon, là on va aller dans du classique, tout ça. Donc j'avais entre mes mains Raphaël Confiant, l'auteur, qui nous écrit La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire. Alors Raphaël Confiant, déjà, donc c'est un auteur créole. Il est très connu donc à Martinique. Il a d'ailleurs, il est à l'origine du premier dictionnaire franco-créole. Il a publié de nombreux livres. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très très pointu sur le sujet. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il écrit sur la Muse ténébreuse de Charles Baudelaire? Eh bien, on va en apprendre un peu plus. Donc, c'est de nouveau un ovni que j'ai eu dans les mêmes. En fait, c'est un roman documenté, puisque tout est vrai dedans, puisque c'est vraiment deux biographies qui vont s'entremêler. Donc la biographie de Charles Baudelaire et la biographie, donc la fameuse Jeanne Duval. Bon, elle a changé 5 fois de nom dans sa vie, mais c'est ce dernier nom qu'elle aura eu, qui aura été la muse de Charles Baudelaire, sa maîtresse, sa démone, sa diablesse, enfin voilà, plein de petits adjectifs qu'on pourrait lui donner. Donc cette jeune femme, on ne sait pas trop d'où elle vient, parce que dans ce dialogue, en fait, il y a plusieurs dimensions. On est dans le livre, parfois c'est Charles Baudelaire qui part, qui parle, pardon, parfois c'est elle. On apprend que Charles Baudelaire, quand sa mère s'est remariée, il faisait un peu l'andouille, et son beau-père, qui était un capitaine de l'armée, l'a envoyé aux Indes pour se calmer un peu, sauf que le bateau, petit problème de tempête, fait escale donc sur l'île Bourbon, qui est devenue la Réunion. Et là, il rencontre donc une belle noire ténébreuse, mystérieuse, avec qui il a des aventures. Alors, dans sa vie, Charles Baudelaire, moi, je le pensais bohème, artiste, mais pas aussi porté sur les femmes. Mais en fait, si, beaucoup. Et là, quand il rentre après cette rencontre sur l'île Bourbon, il pense revoir cette femme. Et on ne sait jamais si c'est elle ou pas qui est revenue, parce qu'à un moment donné, il y a sa vie à elle, où elle a dit qu'elle part de son île, mais on n'a pas l'impression que c'est l'île Bourbon, pour venir rejoindre un homme, mais on ne sait pas si c'est Baudelaire. Enfin, c'est assez mystérieux. Et cette femme, en fait, qui est on dirait un peu comme une sorcière, en fait. Elle envoûte beaucoup les hommes, parce qu'elle est très grande, elle est charpentée, elle a la peau noire, Il y a un côté on est dans l'univers un peu de la nuit, des esprits, des choses comme ça. Et là, donc, en même temps, la vie de Charles Baudelaire, où on rencontre de Nerval, on va rencontrer de Lacroix, on va rencontrer Dumas, Lamartine. Voilà, tous ces personnages-là, donc c'est génial. On est dans le Paris bohème, les théâtres. Tout est magnifique. Et après, il y a aussi le pendant de cette époque où on aurait adoré vivre, la prostitution poussée à son paroxysme, l'état sanitaire de la France, les différences entre le Paris intramuros et la déchetterie qui est devenue le Paris faubourg, voilà. Et donc là, on en apprend beaucoup sur les blénorragies, sur la syphilis. Je connais tous les remèdes, hein, si jamais vous avez besoin, d'ailleurs.
Le remède du 19e,
c'est ça. Et donc, ce livre, il est construit comme ça, avec 5 cercles. Donc déjà, le fait de nommer des passages cercles, ça crée quelque chose d'assez mystique, je trouve. On en apprend beaucoup sur leur vie. On ne sait plus, à des moments, si c'est Charles Baudelaire qui s'exprime ou Jeanne Duval. On les sent torturer. Leur histoire d'amour, elle est merveilleuse, hein. Ils s'aiment, ils se déchirent, ils se quittent, ils se retrouvent. Enfin, c'est à la fois beau et cruel, mais ils sont vivants. Enfin, c'est assez passionnant, parce qu'on voyage beaucoup, on va certes à Bruxelles, on va dans les îles, et on découvre vraiment une autre vision de Baudelaire. Et tout ça, et tout au long du livre, en fait, il y a des passages, en fait, c'est de cette rencontre qu'est sont nées les Fleurs du Mal. Et donc, tout le long du livre, en fait, il y a des extraits du livre, donc des Fleurs du Mal, il y a des poèmes absolument magnifiques, c'est beau, et c'est très perturbant à la fois.
Merci Valérie.
Avec plaisir.
La maison d'édition, c'est
Là, c'est Mercure de France.
Ok, parfait. Donc voilà pour cette émission. Je vous remercie et pour cette belle sélection, encore une fois, très éclectique. On va partir vers où la prochaine fois, Claire, Marlène?
Eh bien, je crois qu'on va partir en Asie du Sud-Est. On va se réchauffer.
On va se réchauffer pour ce mois de décembre. Allez, merci à toutes les quatre et au mois prochain.
À bientôt.
Ciao, à bientôt.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On me voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Et je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.